mon petit garçon, tu ne prends pas de notes ce matin?
Oh, je sais pas.
Ah, mon petit, je ne te dis que ça.
Salut à toi, jeune ou moins jeune sur Radio Panique. J'espère que tu passes le mercredi après-midi le plus cool qui soit entre sport, devoirs, télé et musique. Pardon, je voulais dire mardi. Aujourd'hui, c'est l'émission des jeunes radioactifs de 17h à 18h. C'est la première émission de la saison. Au micro, on a Arnold.
Bonjour, salut.
Et moi-même, Fabrim. À la régie, on a Aurore d'InforJeune Laken. Bonjour.
Alors,
Aurore.
Coucou.
Tu es jeune, et moi, je suis perdu. Mais les jeunes radioactifs, c'est quoi ?
Jeunes radioactifs, c'est une émission participative par excellence.
Et on parle de quoi ici ?
De sujets sérieux comme l'école, le travail, le stage et la famille. Mais des sujets qui nous parlent et nous concernent. Car on va aussi parler de nos droits et de nos devoirs. On vous promet, on ne sera pas casse-pieds.
Mais à part nous, qui participe aux jeunes radioactifs ?
Ben les jeunes, petits et gras bien sûr.
Ah bon ? Et pour qui ?
Les jeunes encore, gras et petits, malins ou pas, bruxellois ou non. Peu importe, on accepte quand même des gens comme toi.
Et qui d'autre pour faire notre belle émission ?
Radio Panique, bien sûr, sur 105.4 FM. Et les associations du secteur de la jeunesse comme InforJeune Laken, que nous remercions au passage. Dans tous les cas, toi qui nous écoutes, si tu veux nous aider dans notre projet, contacte Aurore à InforJeune Laken au 02 421 71 30.
Alors Fabrine, comment va se passer notre nouvelle saison ?
On fait une émission par mois. On fait presque toujours du direct tous les 4e mercredi du mois. On aura nos experts d'InforJeune Laken et nos invités, bien sûr, pour nous éclairer. On fera parfois des micro-trottoirs ou des reportages et on verra comment on se débrouillera.
Intéressant. Et pour aujourd'hui, on se met quoi sous la dent ?
C'est simple, les écoles de devoirs et les activités extrascolaires. On a avec nous Eric Bruckmann, juriste à InforJeune Laken.
Bonjour.
On a aussi avec nous Brigitte Spineux, responsable à la coordination des écoles de devoirs de Bruxelles, et Sarah Deschamps, animatrice de... Ah non, excusez-moi, Sarah n'est pas là, mais on la remercie quand même pour sa participation.
Bonjour. Bonjour aux invités. Donc,
bonjour, bonjour.
On revient après au lycée Papillon de...
Élève la bellure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez 9. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon. Élève Podaran.
Présent.
Vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis citez-moi. Et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont des coléoptères tels que la langouste et le rat à dégoût. Le cheval de bois, le poule à belle-mère qui bat sur sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papi, au lycée Papillon. Élève Troufigne.
Présent.
Vous connaissez bien la géographie, eh bien citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est la gnourue Philibert Besson. Bravo mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève contre la prévente, vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, ben je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne zéro. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon.
C'était au lycée Papillon de Georgis. Éric, Brigitte, pouvez-vous nous présenter votre établissement dans les grandes lignes?
Ok, ben donc moi je m'appelle Éric, donc je travaille à un Forgeon-Laken. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Forgeon-Laken? Je pense que nos auditeurs doivent le savoir, mais enfin bon, pour les s'il y a des nouveaux arrivants, on va leur donner la réponse. Donc un Forgeon, en fait, est un centre d'accueil et d'information, comme le nom l'indique, pour les jeunes. Ça ne veut pas dire que bon, y a une limite d'âge ou quoi que ce soit. Hein, donc, on reçoit d'ailleurs beaucoup de parents qui viennent pour leurs enfants. Et en fait, de quoi traite-t-on? Pourquoi vient-on nous consulter? Ben, un Forgeon, à la base, est un généraliste de l'information. Un généraliste de l'information, ça veut dire que on est susceptible d'entendre et de répondre à toute question qui répond à un besoin des jeunes. Bon, ça, c'est tout à fait en général. Maintenant, il se fait que pour au moins 50% des demandes qui nous sont adressées, ces 50% relèvent de la problématique des études, des formations et du droit scolaire. C'est pas nous qui l'avons imposé comme ça, c'est parce que effectivement, ça fait manifestement partie des préoccupations prioritaires et majeures des jeunes. Et donc, maintenant, on peut dire qu'un Forgeon-Laken a développé depuis pas mal d'années une expertise sur les programmes d'enseignement, sur le droit scolaire, bon, sur le soutien et l'aide au recours en matière de scolarité. Alors le thème d'aujourd'hui, bah oui, c'est de l'extrascolaire, c'est du parascolaire, donc c'est un petit peu à la limite, je dirais, de ce que nous on fait, mais bon, je veux dire, on connaît un peu quand même la problématique et donc on va essayer de répondre, voilà.
Brigitte, pouvez-vous à votre tour vous présenter dans les grandes lignes?
Oui, certainement. La Coordination des écoles de devoirs de Bruxelles, c'est une association d'associations actives dans l'accompagnement scolaire des enfants et des jeunes. Donc ça se fait après l'école. Et c'est un accompagnement réfléchi et en groupe, principalement. Alors, la coordination, elle est en deuxième ligne, elle ne reçoit pas les jeunes, mais elle a un rôle de soutien, d'accompagnement des écoles de devoirs dans leurs projets. Elle représente les écoles de devoirs auprès des pouvoirs subsidiaires, du politique, et elle offre et elle oriente au niveau formation continuée, c'est les formations pour animateurs et coordinateurs en écoles de devoirs. On a une grande part de notre travail aussi, c'est l'information et l'orientation des parents et des jeunes qui recherchent des écoles de devoirs.
Ok, super.
Merci Brigitte. On revient après Pink Floyd à Another Brick in the Wall.
We don't need no thought control.
C'était Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Dis-moi, Eric, que signifie Another Brick in the Wall ? De quoi parle cette chanson ?
Et donc, la traduction littérale, c'est une autre brèche dans le mur, quoi. Mais donc, pourquoi ? Donc, il s'agit. Peut-être que beaucoup ne s'en rappellent pas, mais il s'agit en fait d'une musique des Pink Floyd et d'une chanson en fait qui était un peu un leitmotiv d'un film qui est sorti il y a déjà longtemps. Après, à mon avis, ça doit faire plus ou moins 40 ans. Donc avec la musique des Pink Floyd et qui était en fait un film que j'ai vu, mais donc qui ce que j'en sais encore, c'est qu'effectivement ça traitait du rapport à l'école, donc du système scolaire. Et pourquoi une brèche dans le mur ? Eh ben parce que ça symbolise finalement la révolte contre le système scolaire. C'était un peu ça que voulait illustrer la chanson des Pink Floyd, quoi. D'où le choix de notre programmatrice pour cette chanson.
Tout à voilà. fait. Arnold, ouais. On va voir si tu es malin. Aha. Petit quiz. Okay, si tu réponds à côté, on demandera à nos invités de nous donner la bonne réponse, bien sûr.
Okay. Allez, je t'écoute.
Alors, première question. Mm-hmm. Qu'est-ce donc une EDD ?
EDD ? Si c'est pas un code Wi-Fi, c'est une plaque d'immatriculation.
Raté. Brigitte, on est heureux de vous accueillir. On peut vous tutoyer ?
Mais oui, certainement.
Tu travailles à la coordination des écoles de devoirs. Peux-tu nous donner la bonne réponse ? Car Arnold est un petit comique. Une EED, c'est quoi ?
Eh ben, c'est le raccourci pour appeler les écoles de devoirs, parce que c'est un peu long. Et alors, c'est quoi une école de devoirs, me direz-vous ? Ben, c'est une structure d'accueil d'enfants et de jeunes de 6 à 18 ans qui développe, en dehors des heures scolaires, un travail d'accompagnement à la scolarité et à la formation citoyenne. Mais, il faut bien dire, c'est surtout un lieu de vie entre l'école et la famille où l'avenir se construit. En partenariat avec les parents, les écoles et les nombreux acteurs de l'éducation, par exemple un Forgeon Lac. Et ce lieu de vie, il vise à l'épanouissement global de l'enfant ou du jeune, dans le but de former des cracks. C'est quoi un cracks ? C'est un citoyen responsable, actif, critique et solidaire. Les écoles de devoirs sont très diversifiées ici à Bruxelles, il y en a plus de 240. Elles viennent d'initiatives privées ou publiques, des maisons de quartier, des maisons de jeunes, des AMO, aidants milieu ouvert, des CPAS, des ASBL, même des écoles. Mais alors ils doivent accueillir des enfants de plusieurs écoles, ça doit être ouvert sur le quartier. Et ouvert sur les familles. Et tous les jeunes sont accueillis sans discrimination. On est vraiment fort derrière cela. Une seule devise, on est tous capables, qui qu'on soit, quelque être humain qu'on soit, et on fait en sorte d'aider à l'épanouissement. Ça, c'est notre motivation et notre cheval de bataille dans notre travail en école de devoirs.
Ce sont des bonnes valeurs. Merci beaucoup pour toutes tes infos, Brigitte.
Merci Brigitte. Cette réponse était très large et très explicite. Mais il y a une chose que j'aimerais savoir, EDD. Donc, si je ne me trompe pas, ça existe depuis 1970. Donc, comment ont-elles vu le jour ? Qui les a créées ? Pourquoi ont-elles été créées ?
Alors, les écoles de devoirs, elles se sont développées dans la foulée de mai 68 et de toute cette révolte sociale contre le système établi. La chanson de Pink Floyd en était un exemple ici, plus tôt. Et en fait, cela vient d'un livre italien qui a été publié en français et qui dénonce la reproduction des inégalités sociales par l'école. La toute première école de devoirs a été créée ici à Bruxelles, dans le quartier de Kureghem, à Anderlecht, où vivait une majorité de personnes d'origine italienne et qui donc ont relayé ce message et ont créé une école de devoirs.
Ok, je vois. Et lors de sa création dans les années 70, quelle était la mission des EDD ?
Mais c'était essentiellement du soutien scolaire. Bon, si je peux résumer la chose, le soutien scolaire, c'est l'aide aux devoirs, alors que maintenant, on parle de choses beaucoup plus larges. Et donc, c'était aider les enfants. C'était d'abord les enfants du primaire. Dans un second temps, c'est devenu l'aide aux adolescents en secondaire. Mais c'était surtout l'aide à la réussite scolaire.
D'accord. Est-ce que... Même si les portes sont ouvertes à tout le monde, est-ce qu'il y a un public qui est ciblé? Et est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est vraiment ciblée, comme vous l'avez dit, les adolescents, c'est ça?
Oui, en fait, la tranche d'âge, c'est tous les jeunes en âge de scolarité, c'est-à-dire essentiellement de 6 ans à 18 ans. Mais certaines écoles de devoirs accueillent des étudiants en supérieur aussi. Mais ce n'est pas la majorité.
Ouais, ça, c'est cool. D'accord. Donc, t'es curieux de découvrir la suite, Fabrim?
Bien sûr.
On se retrouve juste après James Brown avec Don't Be a Dropout.
Now a good friend of mine sat with me and he cried. He told me a story, I know he hadn't lied. Said he went for a job, and this the man said, without an education, you might as well be dead. Now don't get me wrong, he said it's not who you are, but people come to me from a near and a far. But I do just work, and I follow the rules. I didn't have an education, so I had to go back to school. My friend told all his buddies that he loved so well, and of their personal trouble, I will not tell. Now those guys didn't seem good, and they didn't seem bad. They didn't seem so happy, and I know they weren't sad. But the point is it that they follow the rules. They got an education, and they all finished school. Now underneath his tears, I could see the true fact. When he dropped out of school, he never, never went back. Got to listen now. Without an education, look here. So one day he got tired of his little spending change. So he looked up his friends to check their pay range. When he got there, the crib, he found that he was a drag. Cause man, they were clean and his clothes were like rags. One was a businessman with a plenty of dough. Had his thing so set up, he knew he couldn't blow. The other had his job so uptight. He had his whole family and his kids all out of sight. Tell me one more time now. Without an education, you got to get a little learning. Without an education. That these were his friends and he was a drag. They looked at him and he was in the same old bag. For his friends, they worked real hard when the work that went through. Now he realized he should have done the same thing too. Tell me one more time now. Tell me, without an education, you got to get some learning now. Without an education, they kept on pushing when the going was tough. And now they know that things don't seem so rough. So kids, stay in school, don't be no drag. Take a fool's advice and stay out of that bag. Tell me one more time. Without an education, you've got to get some money now. Without an education, don't be a dropout. Stay in school now, listen to me. Kids.
Merci beaucoup, c'était James Brown avec Don't Be a Dropout. Fabrice, nous t'écoutons.
Revenons dans le vif du sujet. Brigitte, dis-moi un peu, est-ce que les ASBL ou bien les écoles, est-ce qu'ils ont facile à trouver des professeurs pour... les écoles de devoirs?
Ben, pas tellement. On est... Bon, il y a plus de 3500 animateurs dans toute la communauté française en école de devoir. Mais il y a deux problèmes majeurs. Donc, non seulement trouver des intervenants qui sont capables d'aider les enfants et les jeunes, donc des animateurs qualifiés. Mmh. Beaucoup d'écoles de devoir fonctionnent avec des bénévoles. Il y a environ 50% des intervenants qui sont des bénévoles, des anciens profs ou même des gens qui ont envie d'aider. Et donc, on constitue des équipes, mais qui ont forcément des capacités d'accueil, ne fût-ce que la taille des locaux, les capacités d'accueil sont limitées et il manque cruellement de place. Donc, normalement... On manque d'une part d'intervenants, d'animateurs, et on manque de places pour accueillir les jeunes et les enfants qui en font la demande.
Et c'est dû à quelle raison qu'il y a...
Eh bien, écoute, c'est une de nos revendications, c'est qu'on voudrait bien que le secteur soit refinancé et que notamment les autorités assurent au moins un temps plein supplémentaire dans chaque école de devoir. Actuellement, le minimum, c'est une équipe de trois personnes, dont un coordinateur et un animateur qualifié. Il y a énormément de contrats mi-temps. Les subsides ne sont pas élevés. Il y a des multiples sources de subsides, mais ne sont pas élevées. Il y a la COCOF en cohésion sociale qui a dans ses priorités le financement des écoles de devoir. Il y a la Fédération Wallonie-Bruxelles via l'ONE, c'est le service de l'enfance, qui subsidie également l'école de devoir. Mais pour avoir une idée, un subside annuel de fonctionnement, c'est 2 à 3 000 euros. Donc vous voyez bien que pour payer les gens correctement, c'est une liste. Bon, il y a beaucoup de gens qui se donnent à fond dans les écoles de devoir et qui ne sont pas rémunérés.
Bénévoles, ah, j'ai déjà connu ça.
Ouais. Donc, ah ben voilà, tu vois.
Heureusement que ça existe, ce genre de personnes.
Et est-ce que les missions de EDD sont-elles les mêmes qu'au début de leur création ?
Non, on a beaucoup évolué et maintenant, donc, ce n'est plus vraiment les devoirs qui sont mis en évidence. On œuvre au développement global de l'enfant ou du jeune, c'est-à-dire son développement intellectuel, lui donner les outils, la méthodologie qu'il va lui permettre d'apprendre tout au long de sa vie. En fait, on fonctionne sur base de l'éducation permanente, mais dès l'enfance. L'éducation permanente est consacrée aux adultes, mais on prend les mêmes principes. Donc ça, première mission, développement intellectuel. Deuxième mission, le développement et l'émancipation sociale. Okay. C'est, le jeune trouve sa place dans notre société. Tout le monde a sa place. Il faut la trouver, il faut chercher, il faut faire des expériences en terrain sécurisé. C'est ce que l'école de devoir offre. Troisième mission, la créativité et l'accès à la culture. Il faut bien se dire que je parlais de mai 68 pour la naissance des écoles de devoir, mais c'est toute une mouvance qui s'est créée d'émancipation sociale et culturelle. C'est à ce moment-là que l'éducation permanente a été créée, que les centres culturels ont été créés et on parle maintenant de démocratie culturelle, c'est-à-dire chacun a droit à l'accès à la culture. Aux pratiques artistiques, par exemple. Mais c'est pas seulement ça, la culture. Hein. Mais non seulement de la voir, d'y goûter, mais aussi de faire, de pratiquer et de développer ses moyens d'expression. Ça, c'est cette troisième mission. La quatrième mission, c'est l'apprentissage de la citoyenneté et de la participation. Là, on est en pleine éducation permanente. Hein. C'est de comprendre le monde dans lequel on vit. D'avoir, d'après cette connaissance, de développer son avis. Et ensuite, en troisième phase, de pouvoir la partager et de pouvoir œuvrer, de participer à l'évolution de notre société.
Eh ben, quel programme !
Oui, oui, c'est un gros programme, ça je suis bien d'accord. Mais on est là dans l'idéal, mais on œuvre. Les activités qui sont mises en place en école de devoir, elles ont ça comme fil de trame, quoi, comme fond.
Arnaud, t'as une question ?
Franchement, je suis très satisfait de la réponse de Brigitte. Et je dois avouer que j'ai un peu sous-estimé les écoles de devoirs quand même. Est-ce que vous, vous avez l'impression que les jeunes, Eric, Brigitte, vous avez l'impression que les jeunes sous-estiment un peu l'école de, l'importance de l'école de devoirs ?
Bonne question.
Sous-estiment les jeunes, je n'ai pas vraiment connaissance de ce genre de choses que les jeunes sous-estimeraient. Je pense que peut-être il y aurait lieu de mieux informer le public sur ce qu'est véritablement, ce que sont véritablement les écoles de devoirs, hein, puisque bon, Brigitte l'a très bien développé, l'a très bien présenté. Je pense peut-être qu'effectivement, la représentation que les gens ont de ce que c'est qu'une école de devoirs n'est pas tout à fait claire, parce que souvent, je crois qu'on assimile l'école de devoirs à une espèce de cours en groupe, quoi, donc à une espèce vraiment de remédiation scolaire, et comme si l'école de devoirs se limitait à ça, alors que le champ des compétences et des objectifs d'une école de devoirs est beaucoup plus vaste, hein, comme Brigitte l'a expliqué. Donc il y a d'autres enjeux que, j'ai envie de dire, simplement la réussite scolaire, même si effectivement c'est important. Mais il y a tout le problème de la citoyenneté, il y a tout le problème de ce qu'on peut appeler la cohésion sociale, c'est-à-dire le fait que les individus et les groupes sociaux se rapprochent un peu les uns des autres, qu'il y ait une meilleure compréhension, oui, des autres, mais aussi du système dans lequel on vit, c'est-à-dire le système scolaire, mais au-delà de ça, je dirais les institutions, hein, qui sont les institutions de notre pays. Donc il y a véritablement des enjeux de citoyenneté qui sont très présents dans les écoles de devoirs. Et peut-être que là, certains parents, pas seulement, peut-être certains jeunes aussi, je pense, n'ont pas vraiment une représentation suffisamment claire de ce que sont les écoles de devoirs. Et c'est pour ça, je pense, que l'émission qu'on fait là pour le moment peut contribuer à essayer de recadrer un peu cette représentation, quoi. Et si c'est le cas, tant mieux. Voilà.
Est-ce que les parents comprennent-ils bien toutes les missions qui sont, pour le rappeler, développement à l'intelligence, enfin l'intellectualité, l'émancipation, tout ce qui est accès à la culture et sociale, c'est ça ?
Et la citoyenneté.
Citoyenneté.
Eh bien, écoute, ça varie très fort, mais d'une manière générale, les parents ou les jeunes, hein, parce qu'une fois qu'ils sont adolescents, c'est eux qui appellent. Mais nous, ce qu'on a comme retour, c'est qu'ils cherchent une aide pour les devoirs. On est très, très focalisé sur les devoirs. Et il y a un stress, une pression à la réussite scolaire. Comme le dit Eric, c'est comme ça qu'on voit les écoles de devoirs. Alors, ce qu'on prévoit en école de devoirs pour ça, c'est un temps d'accueil. Au début de l'année scolaire, on reçoit les parents, quand c'est un enfant du primaire, hein, avec l'enfant, ou l'adolescent lui-même, et on lui explique le projet de l'école de devoirs. Il y a autant de projets que d'écoles de devoirs, hein, ça je D'accord. dois bien vous le dire, mais ils sont orientés dans les quatre missions. On prend le temps d'expliquer aux parents, et c'est une espèce de contrat qui se fait entre les parents et l'école de devoirs. Et on peut notamment demander, pas obligé, hein, c'est entre guillemets, mais au jeune qui vient, à la fois on va l'aider peut-être pendant un temps limité à une heure en général, on va l'aider à ses devoirs, mais qu'après il fasse l'effort de se lancer et de participer à un atelier créatif, par exemple, pour tout doucement l'amener vers ce développement global qu'on prône. On y va en douceur, hein, ça ne sert à rien d'obliger. Mais quand ils découvrent, en général, on m'a dit dans les écoles de devoirs, beaucoup me disent, ils viennent avec des pieds de plomb les premières, deuxièmes séances, et après, ils ne quittent plus l'atelier créatif, quoi.
Bonne nouvelle. Est-ce que les EDD se sentent-elles obligées, de la part des parents, d'offrir un soutien scolaire aux enfants ?
Il y a une énorme pression, m'ont-ils dit. Bon, je les rencontre en formation, hein, les animateurs et les coordinateurs. Et les parents ne comprennent pas qu'on ne fasse pas, qu'on fasse autre chose que les devoirs ou que les devoirs ne soient limités qu'à une heure. Mais je pense qu'on va en reparler dans l'émission. Mais c'est un problème. Il faut vraiment que les animateurs gardent à l'esprit leur mission et résistent à cette pression et arrivent à passer le message aux parents que pour le développement harmonieux et l'épanouissement de leurs enfants, ils soient amenés à faire d'autres choses que les devoirs.
Et par rapport aux parents, c'est peut-être vous pensez pas que c'est le nom école des devoirs qui apporte une confusion dans leur esprit?
Oui, très certainement. Donc, on a déjà réfléchi à cela au niveau de la Fédération et de l'ONE. Mais bon, c'est très sensible parce qu'on touche aussi à la représentation que se font les citoyens de l'école. J'ai des retours, par exemple, on me dit une école qui ne donne pas de devoirs, ce n'est pas une bonne école. Le devoir est encore vu comme le travail de l'enfant, ce qu'il doit faire pour réussir. Ça doit être dur pour réussir, donc on doit avoir beaucoup de devoirs. Et donc, il y a un travail énorme au niveau des coordinations et de l'ONE, ce qu'on veut, pour sensibiliser à modifier l'image du devoir dans notre société. Mais, donc, ce que je veux dire par là, c'est que uniquement changer de nom ne va pas résoudre tous les problèmes, mais effectivement, c'est quelque chose à envisager.
Merci beaucoup. On va marquer une courte pause avec MHD Bodyguard.
Hey, assez, du talent j'en ai assez. J'suis dépassé, hier en métro, aujourd'hui classé. C'est moi roi de l'afro, dans l'été après j'envoie les bastos. Derrière j'les vois pas trop, j'vois que le cul du Mercure dans mon rétro. J'suis là où on m'attend pas, j'viens de Wakanda. Bâtard j'bouge pas mon wad. J'ai mon bodyguard, j'fais des hits quand j'veux, j'suis pas pressé. Y'a l'album qui est prêt, j'vais l'avancer. J'suis un crack comme Pogba et Mendy, si les bras sont forcés. Et puis merci. Bodyguard, 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 ayakaka, bodyguard, 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 ayakaka. Est-ce que mets-moi un stop pour durer dans le game, j'ai les codes. On m'a dit petit pour briller, faut pas trop suivre les autres. J'sais plus où aller, j'suis dans le bloc, ils ont rodave ma pile, j'ai dû acheter un Glock. Je vais les chasser. Ça veut peps mon flow, gros, le temps là c'est pas forcé. J'suis pas rappeur français, j'fais de la zig de spi, histoire de m'ambiancer. Stop. Où est donc passé mon bodyguard? Ronan, c'est un spatata. J'ai plus besoin du pa pa pa. J'me couronne tout seul, phrase de la ville. Mille étoiles dans tous tes avis. J'suis posé, j'attends plus que mon persil. J'veux le diamant, j'en veux plus tous ces singles d'or et de platine. Bodyguard.
Merci beaucoup, c'était MHD avec Bodyguard. Eric, donc l'une des missions des écoles de devoir est de réduire les inégalités scolaires.
Mmh.
L'école n'a-t-elle pas aussi un rôle à jouer pour réduire ces inégalités? Cesser les devoirs, réduire le nombre d'heures de travail à la maison par exemple?
Oui, ça c'est un vaste chapitre alors qu'on entame si on parle de ça. Parce que bon, les inégalités scolaires, je dirais, en Belgique et particulièrement en Fédération Wallonie-Bruxelles, on est bien placé pour savoir ce que c'est. Enfin, en tout cas, je veux dire, hélas, on est très bien ou très mal placé plutôt dans l'échelle des inégalités scolaires, puisque, bon, comme l'ont démontré les enquêtes internationales, donc principalement les enquêtes PISA, hein, les fameuses enquêtes menées par l'OCDE, c'est que les inégalités sont vraiment énormes. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que les inégalités sont énormes ? Ça veut dire que les 25% des familles les plus favorisées sur le plan socio-économique, si on prend ce segment-là, et les 25% des familles les plus défavorisées, eh bien, on enregistre un écart vraiment très très grand, beaucoup plus important que la majorité des autres pays de l'OCDE en matière de réussite ou de performance scolaire, quoi. Donc ça veut dire que il y a quand même ce qu'on appelle une corrélation, c'est-à-dire un lien entre la situation socio-économique des familles et donc des élèves qui font partie de ces familles et la réussite scolaire. Donc les inégalités, effectivement, c'est quelque chose qui est très présent, qui existe. Malheureusement, on l'a objectivé déjà depuis pas mal d'années grâce notamment à ces enquêtes PISA. Maintenant, c'est sûr que la réforme, mais une réforme structurelle du système scolaire devrait amener, je dirais, à réduire davantage ces inégalités. Pour le moment, en fait, jusqu'à présent, finalement, on n'a été que, j'ai envie de dire, sans être caricatural, dans des réformettes, dans des réformes qu'on peut qualifier de cosmétiques, donc c'est-à-dire qui s'occupent des apparences, mais pas dans des réformes structurelles. On a parlé maintenant depuis 3 ans, enfin, il y a un processus là qui s'appelle, qui a mobilisé un peu tous les acteurs du champ scolaire, qui s'appelle donc le pacte pour l'excellence. Enfin, pour moi, c'est déjà un terme déjà très, très équivoque, pacte pour l'excellence. Hein. Bon, je veux dire, quand on voit un peu la situation dans laquelle on est, excellence a déjà une connotation très élitiste. Et je crois que quand on voit un peu le contenu, bon, qui n'est même pas encore mis en œuvre, mais on peut se poser la question de savoir si, effectivement, ça va vraiment contribuer à réduire ces inégalités. Mais pour en revenir, je dirais, au thème d'aujourd'hui, qui est vraiment l'école de devoir, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que réduire les inégalités, ça passe aussi par le fait que l'école devrait en tout cas se réapproprier beaucoup plus la question de la remédiation. De la remédiation, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est cours particulier. Donc ça concerne peut-être moins les écoles de devoir, même ça concerne aussi les écoles de devoir. Mais ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que tout ce problème de la remédiation scolaire, des cours particuliers, du fait que l'école ne l'a plus suffisamment prise en charge elle-même, eh bien ça fait l'objet vraiment d'un marché scolaire. Il y a un marché scolaire, mais d'un marché scolaire de la remédiation. Donc il existe aujourd'hui énormément de boîtes privées qui se font vraiment des profits vraiment très importants grâce à la remédiation scolaire. Mais là aussi, je veux dire, plutôt que de réduire les inégalités, ça les confirme et ça les conforte. Pourquoi ? Parce que ce marché scolaire, ces boîtes privées qui font de la remédiation, ben évidemment, elles demandent à être payées pour les cours. Ouais, et ce sont des prix pour les cours particuliers qui, effectivement, excluent toute une partie de la population, donc toute une partie des familles. Et donc, effectivement, parfois, ceux qui en auraient le plus besoin, puisque, comme je disais là tout de suite, il y a un lien direct entre la situation socio-économique et les résultats scolaires. Donc, plutôt que d'aller dans le sens de plus d'égalité, le fait de qui a ce marché scolaire qui s'est approprié la remédiation parce que l'école là n'a pas été suffisamment active ou proactive à ce niveau-là, ça ne fait que renforcer justement les inégalités. Ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, si on en vient plus directement, bon, ça participe un peu de ça aussi, si on en vient à la question des devoirs, hein, puisque c'est ça aussi un peu de dire, les devoirs, finalement, il y a un gros enjeu là-dessus, quoi. C'est-à-dire que, que dit le législateur ? Donc, en fait, je pense que c'est un décret de 2001 qui légifère donc en matière de devoirs. Et donc, il y a vraiment une base légale. Il y a des mesures qui ont été mises en place par le législateur pour l'enseignement primaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en première et deuxième année primaire, on ne peut pas avoir de devoirs à la maison.
Ah bon ?
Oui. On ne peut pas avoir de devoirs à la maison, sauf que l'école, enfin l'instituteur ou l'institutrice, devrait inciter l'élève à présenter ce qu'il fait à l'école auprès de ses parents.
Ah ouais.
Pour que, effectivement, le lien, quand même, de transmission et de suivi. Enfin, de suivi autant que faire se peut du côté des parents, se fasse aussi. Donc, il ne s'agit pas de couper net entre les deux, mais les devoirs eux-mêmes, en première et en deuxième année, normalement, maintenant sur le terrain, ça peut encore se passer différemment, mais si on s'en réfère à la base légale, normalement, pas de devoirs à la maison en première et deuxième année, primaire. Troisième et quatrième année, on peut donner des devoirs, mais maximum qui représente maximum 20 minutes par jour, okay. Pas plus. Et alors en cinquième et sixième année primaire, c'est maximum 30 minutes. Donc 30 minutes maximum. Et pour le secondaire, là le législateur ne dit rien. Ça veut dire que finalement, c'est selon le projet pédagogique de l'école. C'est-à-dire que ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les écoles, souvent dites à pédagogie active, elles-mêmes vont plutôt dans le sens, quoique je n'oserais pas généraliser, mais vont plutôt dans le sens de faire en sorte que tout le travail qui est celui des devoirs qui sont faits à la maison se fait à l'école. Et que les autres écoles ont plutôt tendance à donner des devoirs à la maison, quoi. Donc voilà, donc ça reste quand même très partagé. Et là aussi, il y a un gros enjeu de réappropriation par l'école du travail à la maison. Je voulais juste rajouter quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est important que le travail des devoirs se fasse à l'école et pas à la maison ? C'est parce qu'il y a une inégalité qui provient du fait que les familles ne sont pas tous à capacité égale par rapport à ça. Il est clair que des familles dont les parents ont fait des études supérieures seront plus à même de suivre les élèves à la maison, tandis que dans des familles où les parents ne parlent même pas la langue, ne parlent même pas le français, forcément, eux ne seront pas en capacité de suivre leurs enfants. Donc il y a une inégalité qui est induite par les devoirs à la maison aussi. Voilà.
Ok, merci Eric. Donc, juste une dernière question à Brigitte. Parmi les retours que vous avez, donc les jeunes qui viennent à l'EDD, ont-ils beaucoup de devoirs et quand ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils terminent tous leurs devoirs ?
Oui, alors ça, donc c'est très inégal. Évidemment, je ne connais pas chaque... toutes les quantités de devoirs de chaque école de tout Bruxelles. Mais en tout cas, on arrive parfois en deuxième, troisième primaire avec des devoirs qui dépassent largement les 20 minutes, même l'heure. Alors, ce qu'on a coutume de faire en école de devoirs, c'est que beaucoup d'animateurs, une fois que l'enfant a bien compris, si par exemple c'est une liste de calculs, il y en a qui viennent avec 30-40 calculs, à partir du moment où l'enfant a bien compris la façon de calculer, la fonction qu'il est en train de voir, on arrête à partir d'un certain moment. Parce qu'il faut bien se dire, les enfants sont fatigués, ils viennent déjà de l'école.
C'est vrai.
et on passe à des ateliers où on peut faire les choses autrement, apprendre autrement.
Ok, on se retrouve après cette courte pause. Écoutons Michel Sardou, Les Deux Écoles.
J'ai eu l'instituteur qui, dans les rois de France, n'a vu que des tyrans au règne désastreux. Et celui qui faisait du vieil Anatole France un suppôt de Satan, parce qu'il était sans Dieu. J'ai fait les deux écoles et j'ai tout oublié. La nuit des Carmagnoles, la fin des assemblées, les dieux de l'Acropole et les saints baptisés. J'étais des deux écoles et ça n'a rien changé. Dans le Lot-et-Garonne, on bouffait du curé, on priait la Madone le dimanche en Vendée. Des cailloux de Provence au château d'Aquitaine, on chantait la Durance, on pleurait la Lorraine. Dans le Rhône et l'Essonne, on chassait les abbés, on plantait en Argonne des croix de Saint-André. Des sommets du Jura au jardin de Touraine, on pleurait la Savoie, on chantait la Lorraine. Je veux que mes enfants s'instruisent à mon école. S'ils ressemblent à quelqu'un, autant que ce soit moi. Après ils s'en iront.
C'était Michel Sardou, Les Deux Écoles. Arnold, tu as quelque chose à nous dire ?
Oui, durant la pause, j'étais justement en train de remercier nos deux invités formidables, Eric, Brigitte, parce qu'on a des explications très claires et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont apprendre aujourd'hui.
Exactement.
Plaisir de vous avoir parmi nous. Fabrice, on continue ?
Bien sûr. Les écoles de devoir, c'est du soutien scolaire, mais pas que. Les parents, la famille, n'ont-ils pas aussi un rôle à tenir sur le plan pédagogique pour renforcer le DD ?